C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, ce rapport de la santé publique de Montréal au sujet du temps passé par les ados devant les écrans. C'est pas une surprise de découvrir que depuis la fin de la pandémie, ils passent moins de temps, mais quand même, beaucoup d'heures consacrées essentiellement pour des jeux vidéo, regarder des vidéos également, du divertissement, écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce rapport, Luc?
Ouais, le rapport voulait savoir si les mauvaises habitudes de santé mentale s'étaient perpétuées après la pandémie. Et puis, non. Les jeunes vont beaucoup mieux que pendant la pandémie. Par exemple, moral, mauvais ou passable, était à 35 % pendant la pandémie. Il est à 23 % maintenant. Il y a quand même une chute de 12 points. Insatisfaction des relations de famille, était à 11 % pendant la pandémie. Il est moins de la moitié maintenant, etc., etc. Les insatisfactions pour les relations avec les amitiés, c'est celui qui a le plus baissé. À 16 % pendant la pandémie, 5 % maintenant. Donc, belle remontée avec les relations sociales qui se rétablissent. Ceci étant dit, la surprise n'est pas là. La surprise, elle est dans la consommation de temps d'écran par jour, par semaine, qui, moi, m'a jeté par terre après la pandémie. Donc, pendant la pandémie, c'était 44 % des jeunes qui consommaient plus de 5 heures d'écran par jour. Ben, après la pandémie, c'est 38 %. Donc ça a baissé de 6 points, là. Je veux dire, à 38-40 % là, de 5 heures et plus. Fait que là, tu ne sais pas si c'est 6 ou si c'est 7, là, 5 et plus. Puis si tu rajoutes là-dedans les 4 à 5 heures, tu rajoutes un autre 11 %, ben tu as 50 % des jeunes qui sont là pendant 5 heures et plus. 4-5 heures et plus. Et ça c'est le temps déclaré. Le temps déclaré est nécessairement un peu plus bas que le temps réel. Et quand ça touche ça, à mon avis, c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. C'est-à-dire que les jeux de groupe, les activités ensemble souffrent du fait que 50 % des jeunes ne sont pas disponibles, sont dans leur sous-sol ou sont dans leur où ils sont en train de jouer, en train de lire. Et quand tu regardes les impacts attribués aux écrans par les adolescents montréalais, quand tu leur demandes à eux ce qu'eux, ils pensent que ça fait comme impact, ben ils pensent la même chose que les experts. Ils disent exactement la même chose. J'ai moins tendance à apprendre des nouvelles choses. J'ai plus de difficultés à maintenir des relations. Ça nuit à mon travail scolaire, à des chiffres qui sont de 50, 70 et 80 %.
Nathalie.
Ben, tout d'abord, moi, je tiens à féliciter l'équipe de la Direction régionale de santé publique du CIUS, du centre sud de l'île de Montréal, qui a rédigé le rapport. Pourquoi? Parce que plus on va avoir de données fines sur l'utilisation du temps d'écran, par exemple, et sur la santé mentale de nos jeunes, bien, plus on va avoir d'outils pour élaborer des politiques et des programmes qui seront adaptés à leurs besoins. Alors, au-delà des bonnes nouvelles auxquelles tu as référé, là, qui se retrouvent dans le rapport, ben, on se rend compte à quel point la pandémie a causé un préjudice à nos jeunes en particulier, qui ont été privés de voir leurs amis. Un adolescent, là, par nature, c'est un être qui aime beaucoup socialiser. Et le fait qu'ils aient été à ce point coupés de leurs amis, ben, a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés davantage, un plus grand nombre, puis dans le cadre d'un plus grand nombre d'heures aussi sur leur tablette. Mais dans les mauvaises nouvelles, et là, tu l'as dit, Luc, c'est une tendance lourde. Moi, je pense qu'on est confronté à un problème de santé publique et ce serait bien qu'on puisse à un moment donné passer à l'action. Bon, on a une discussion là-dessus la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement devrait adopter une loi, y aller par directive, faire la promotion de campagnes télé, radio, dans les médias pour justement sensibiliser les parents, les jeunes à l'importance de trop utiliser leur tablette. Je n'en sais trop rien, mais clairement, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il y a un défi, il y a un enjeu de santé publique ici. Moi, ce qui m'a beaucoup préoccupé sur l'utilisation intensive des écrans, c'est l'impact que ça a sur la santé des jeunes, pas seulement sur leur santé mentale. Pour 23 % d'entre eux, ils estiment qu'ils ont une santé passable ou mauvaise. Pour 41 % d'entre eux, tenez-vous bien, ils ont un moral passable ou mauvais. Alors, ils sont extrêmement lucides, les jeunes, face aux dommages que crée une utilisation trop grande des écrans dans leur vie. Et là, il y a une corrélation directe c'est ce que les données démontrent, entre une utilisation intensive des écrans et la motivation qu'ont les jeunes à l'école. parce que il y a une motivation. Plus ils sont sur leurs écrans, moins est leur motivation à l'école, moins ils pratiquent d'activité physique et plus est élevé leur inquiétude face à l'avenir. Fait que je comprends là, que les tablettes, ça peut être bon dans la vie, là, puis les écrans, puis les cellulaires et tout ça, mais l'utilisation abusée, vous allez me dire, Nathalie, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, la modération a bien meilleur goût, là, mais vivement dans le cas des tablettes, des écrans et des cellulaires.
Le chercheur qui était avec nous tantôt a dit, parce que là on parle des ados, mais si tu inclus les adultes, parce qu'il y a déjà eu des études sur les adultes, si tu passes plus de 4 heures par jour devant un écran, là, que ce soit la télé, le téléphone, la tablette, l'ordinateur, tu vas avoir un problème de santé. Parce que si tu passes, là je parle pas pour le travail, là, mais en dehors du travail, si tu passes 4 heures, là, ça veut dire que tu te feras pas à souper parce que tu es en train de jouer à quelque chose, tu vas peut-être manger de la malbouffe, tu n'iras pas dehors, tu n'iras pas faire de sport. Autrement dit,
tu coupes sur d'autres choses.
Ben c'est ça, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Donc, pour eux, 4 heures et plus, ça a un impact sur la santé.
Je trouve que c'est un mot juste de bonne indication. Et puis, il y avait, dans ce sens-là, il y avait une autre étude qui était faite cette fois par le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL, qui Emmanuelle Parent est directrice générale. Et elle disait, dans l'étude où on a posé des questions aux jeunes, comment vous allez, etc., etc., beaucoup de jeunes s'inquiétaient pour leurs parents. C'est drôle, hein? En disant...
Parce qu'ils voient leurs parents.
Voilà.
Devant l'écran en permanence.
Ben voilà. C'est que, ouais. c'est pas moi tout seul, là. C'est tout le monde.
C'est pas très motivant.
C'est
hein,
tout le monde dans la famille. C'est drôle parce que quand tu demandes aux jeunes, est-ce que c'est correct? Tu aurais tendance à penser que oui. Tu sais, j'ai dit tantôt qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et une des inquiétudes qu'ils ont, c'est tanné d'être devant les écrans. Et c'est 25 % des jeunes qui sont tannés de cette situation-là. Donc, ils la vivent comme une situation où il n'est pas choisi, cette situation-là.
Écoute, juste une parenthèse vite. J'ai reçu un courriel d'une auditrice qui reconnaît passer beaucoup de temps. Elle a un petit gars de 8 ans. Et son petit gars, en fin de semaine, lui a dit à sa mère qui est devant l'écran, « Peux-tu lâcher ta tablette? J'aimerais ça aller jouer dehors. »
Oh,
c'est
voilà,
l'enfant qui dit ça à sa mère.
Mais oui, mais
c'est
oui.
Même, puis elle dit là, c'est un choc quand tu te fais dire ça, mais en même temps, il a raison.
Oui.
Absolument.
Mais combien de couples ont des chicanes à cause de ça? Des hommes écrivent et disent ben, « Je sais plus quoi dire à ma femme, elle est toujours sur sa tablette. » Puis c'est pas évident, là. T'abordes ça comment, un enjeu comme celui-là, avec ta conjointe? Là? Je donne cet exemple-là parce que c'est souvent les hommes nous écrivent pour nous dire ça. Mm. Puis moi, je trouve que c'est, ça fait pitié. Là. T'sais, le petit bonhomme, il dit à sa mère, maman, tu sais, il est en train de dire, moi je trouve ça triste, c'est immensément triste, et j'espère que, puis si elle t'a écrit pas, c'est donc qu'elle a pris conscience.
Je pense que oui, de façon radicale et brutale, mais oui.
Ah oui. Hein,
oui, mais ça va durer 3 semaines.
Ah, ben,
sans égard aux qualités de cette femme-là, parce que moi la même chose m'est arrivée, puis à un moment donné, mon fils m'a dit quelque chose qui ressemblait à ça, peut-être un peu moins triste, puis effectivement, il dit, quand j'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il dit, je vais être agent immobilier. Je dis, comment ça, agent immobilier? Fait que là.
Il t'a répondu pour faire de l'argent, c'est
oui,
ça?
Oui, il dit, je veux faire de l'argent.
Il a dit, sur le plateau, en plus.
Ouais, ben voilà.
Ben voilà.
Et j'ai dit, pourquoi tu veux être agent immobilier? Il dit, parce que je veux pas faire l'erreur que t'as faite. Quelle erreur? Il dit, de travailler tout le temps.
Oh!
Wow,
on va aller à la pause sur cette réflexion philosophique.
Non, oui, wow, c'est bien.
Au retour, les souliers Louboutin de la ministre de l'Habitation quand elle annonce des logements sociaux.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors évidemment, ça a fait beaucoup jaser les souliers Louboutin de la ministre France Hélène Duranceau pour annoncer des logements sociaux. Alors pour les gens qui ne le savent pas, des souliers Louboutin, c'est à peu près ce qui coûte le plus cher en termes de souliers et ça peut représenter 1 500 $ avec les taxes. Est-ce que c'est un faux pas, c'est un manque de jugement d'aller annoncer des logements sociaux avec une paire de souliers qui coûte aussi cher? Nathalie.
Ben, toutes ces réponses sont bonnes, les amis, ce matin. J'ai envie de vous dire, cachez ces chaussures que je ne saurais voir. Non, mais une autre occasion manquée pour la ministre France-Hélène Duranceau d'améliorer son capital de sympathie. Elle ne pouvait choisir pire chaussure pour faire une conférence de presse sur le logement social. Pourquoi? Parce que Louboutin, c'est l'incarnation de la richesse, du luxe, du glam. Alors, c'est totalement incompatible avec la mission pour laquelle elle a été mobilisée. Et je vous ai envie de vous dire que Louboutin, c'est pas mal plus glam, effectivement, sur un tapis rouge que dans une salle de conférence de presse où la ministre responsable du logement et de l'habitation confirme une annonce pour les plus démunis de notre société. Mais je me suis fait la réflexion suivante, parce qu'en passant, elle a eu droit à sa caricature dans la presse, Chapleau. Puis ça, c'est, écoute, je me suis dit, c'est impossible qu'elle ait pas de caricature. Je sais pas, ça va faire comme, j'ouvre une parenthèse, Monique Jérôme Forget. Lorsque Monique avait une caricature, elle prenait le soin de l'imprimer, puis elle faisait des napperons avec ses caricatures. Et lorsqu'elle invitait des gens à manger chez elle, ben tout le monde avait un napperon d'une caricature de Chapleau ou d'un autre caricaturiste sur sa table. Alors, je me dis, avec l'exercice de la politique vient une certaine humilité. Hein? Humilité dans le propos que tu tiens publiquement, humilité dans la façon dont tu te comportes en public devant tes électeurs. Puis j'ai envie de vous dire aussi humilité dans la façon dans les choix dans tes choix vestimentaires. Et c'est Fred qui m'écrivait ça tout à l'heure, là, il y a un running gag qui circule à propos de la ministre France-Hélène Duranceau dans le milieu municipal, dans le milieu des organismes communautaires. Lorsque sa présence est attendue, là, on se demande tous comment elle va être habillée, puis qu'est-ce qu'elle va porter dans les pieds. Alors là, elle est associée à une image d'une ministre qui est complètement déconnectée de la réalité. Mais il y a une chose qui me dérange dans cette histoire-là, c'est l'espèce de double standard. Moi, j'ai siégé avec un collègue qui aimait beaucoup les beaux habits, qui aimait beaucoup les belles cravates. Puis quand je vous parle de belles cravates, là, c'était pas des cravates...
On peut-tu parier sur ces qui?
Ah, ben, c'était pas des cravates à 60 piastres.
Moi, je dis Moreau. Mais... C'est-tu lui?
Hey, t'es perspicace, mon cher. Mais Pierre, je le dis avec beaucoup d'amitié parce que on a déjà blagué là-dessus. Pierre, c'est un bel homme. Il était reconnu comme un homme qui avait énormément de goût. C'était quelqu'un qui était, tu sais, qui avait une belle prestance. Mais est-ce que un jour quelqu'un a fait un commentaire sur les beaux habits de notre ami Pierre, sur ses belles chemises, sur la qualité de ses cravates? Personne. Personne. Alors, je me dis, c'est souvent les femmes qui sont visées dans ce genre. En passant, je n'excuse pas du tout. Je continue d'affirmer qu'elle a fait un mauvais choix de se présenter à une conférence de presse sur le logement social avec ses loups boutins. À l'Assemblée nationale, il n'y aurait probablement pas eu d'histoire, mais dans une conférence de presse, c'est autre chose. Mais cette espèce de double standard. Alors, je vais terminer en disant, on a demandé à Mme Marois, Mme Pauline Marois, ouais, d'enlever, oui, ses bijoux, ses foulards. On l'a complètement dénaturé. Madame Marois, c'est un exercice totalement raté. Pourquoi? Parce que on lui a fait perdre de son authenticité. Moi, Madame Marois,
moi, je me souviens à l'époque qu'il y avait eu cette discussion-là. J'ai trouvé ça tellement ridicule. C'est-à-dire que Madame Marois porte un foulard, qu'elle porte, je sais pas, des bijoux, ça change quoi? C'est la première ministre, voilà, du Québec. Elle peut bien s'habiller comme elle veut. Puis t'as raison. Est-ce qu'on va reprocher, à tel ministre de porter tel veston fait sur mesure, ou voyons donc.
C'est... Oui, mais moi, mais pas sur, dans, mais sur ce bout-là, c'est-tu quoi? Sur ce bout-là, je suis pas d'accord avec vous, parce que il y a des vêtements, il y a des beaux vestons à 6 000 $, hein, ça c'est clair. Le seul affaire, c'est que nous autres, les gars, on est tous habillés comme des robots. Fait que tu peux pas faire tant que ça la différence entre quelqu'un qui a une chemise à 400 $, un veston à 6 000. C'est tout veston, cravate, chemise, tu sais. C'est pas évident.
Excuse-moi, la qualité, parfois, c'est perceptible, mon cher.
Oui, c'est vrai, mais c'est moins perceptible. Il y a moins de variété, mettons, dans la mode masculine.
Mais
que
c'est
dans
sûr
la mode
qu'un hanche papier, c'est un Louboutin, c'est ça, on le voit vite, là.
Ça paraît.
mais allez-y. Sur le fond, monsieur.
Mais sur le fond, je dirais, Nathalie a raison de dire que ce n'est pas de la prospérité, c'est de l'opulence. Parce que Louboutin, ben, c'est rare que tu aies des souliers Louboutin puis que le reste acheté chez Croteau. T'sais, d'habitude, ça va avec les vêtements Prada, les sacoches. D'ailleurs, elle est allée à une conférence de presse avec une sacoche Dior à 4 500 $, me dit-on. Mais bon, de toute manière, c'est un ensemble. Et ça témoigne d'opulence. Et cette opulence-là, elle ne l'affiche pas, elle l'a. C'est-à-dire que, elle a acheté sa première maison au comptant en 2006, comptant cash, clic. Une maison à 700 000 $ qu'elle a revendue 2,4 millions de $ par la suite. Donc, un gain en capital important avec son... elle est fiscaliste de formation. Donc, sa job, c'est de conseiller aux clients des stratégies pour payer moins d'impôts. Toutes ces caractéristiques-là mises ensemble, on peut se demander, est-ce que t'es capable, avec toute cette opulence-là, cette richesse-là, cette tendance-là que t'as choisi dans la vie, d'être à l'écoute de la sensibilité des gens les moins fortunés? Et la réponse, c'est oui. Parce que le collègue du Conseil des ministres qui a le plus de biens immobiliers à la CAQ, c'est Carman. Carman a plus de 5 millions de dollars de biens immobiliers à la CAQ et fait preuve de beaucoup d'abord d'humilité d'une part, puis un travail très, très sensible sur les questions d'itinérance, de santé mentale, etc. Alors, dans son cas, on ne lui reproche pas, puis on ne l'aura pas reproché non plus à Mme Duranceau si ça n'avait été des choix politiques qu'elle a fait en arrivant. Et qui témoignait d'une insensibilité claire, nette et précise à la question de la crise du logement. Évidemment, sa phrase malheureuse, là, ben, s'ils sont pas capables de s'ils veulent transférer un bail, ben, qu'ils s'achètent une maison. Ben, ça non plus, elle l'a pas inventé. Elle l'a irrité du gouvernement Legault. Parce que celui qui a fait preuve de plus d'insensibilité dans toute l'affaire de la crise du logement, c'est son boss. Legault qui a fait des déclarations épouvantables. Petite parenthèse, là, je parlais de Carman, puis on parlait de Mme Duranceau. Tous les membres du cabinet des ministres de M. Legault sont assez bien dotés. La moyenne, c'est 1,6 million de valeur immobilière. Et ceux qui sont dans les pouvoirs économiques les plus proches, là, Éric Girard, Fitzgibbon, Legault lui-même, etc., là, on est en haut du 3 millions. Donc, c'est pas des pauvres. Ce sont des gens qui ont... t'aurais pu faire preuve de sensibilité, mais Legault n'a pas fait preuve de sensibilité. Il y a une déclaration qu'il a faite, là, qui, moi, m'a à tout jamais jeté par terre. Quand il a dit, il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent et je souhaite qu'on rejoigne non seulement l'Ontario, mais le reste du Canada et les États-Unis pour que les salaires augmentent. Tant pis, je ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver. Que Vancouver? Mm-hmm. Qu'on ait un prix des maisons égal à celui de Vancouver, mais qu'est-ce que t'as fumé?
Mais qu'est-ce il l'a pas fumé? Répété. Il l'a pas répété, celle-là.
Non, mais il l'a dit. Il l'a dit. C'est lui qui l'a choisi, la ministre de l'Habitation. Et quand il a dit, il n'y en a pas de crise du logement, j'ai 4 premiers juillet d'expérience, puis ça s'est très, dans mon dos, ça s'est très bien passé. Il pensait que la crise du logement, c'était des gens qui se trouvaient pas de logement au 1er juillet. Puis ça, c'était en 2023. Le gars n'avait aucune sensibilité au drame qui est en train de se fomenter.
Mais toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas ta valeur comptable qui fait que t'es sensible.
Ni tes vêtements, ni tes vêtements,
ni tes vêtements là, mais je veux dire, ta richesse, là, c'est pas ça qui fait que t'es ou pas branché sur la réalité des gens.
Puis que j'ajouterais qui fait que t'es soit ou non compétente.
Aussi.
Et je reviens à la notion d'humilité. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de la mairesse de Sainte-Foy, l'ancienne mairesse de Sainte-Foy, Mme André Boucher, qui portait du Yves Saint-Laurent. Elle adorait ça. Puis elle avait des robes toujours extrêmement flamboyantes. Elle avait son style à elle, mais mon Dieu qu'on a aimé Mme Boucher. Quelle femme extraordinaire. Combien de se sont moqués de ses robes flamboyantes, mais a trouvé ça très, très drôle. Mais jamais personne n'a questionné sa compétence.
Mais toi, comme ministre, tu faisais attention à ça?
Oui, ben c'est-à-dire oui, bien sûr, absolument. Mais moi j'aimais ça bien me vêtir. Là. Honnêtement, moi j'en ai dépensé de l'argent. Vous dire j'en ai dépensé pour ma bien politique. Et moi j'aimais beaucoup les vestons de cuir. Alors souvent je me suis habillée en cuir. Mais là ça a frappé l'imaginaire. Ça j'en ai entendu beaucoup parler. Moi ce que les gens me disaient t'étais toujours bien habillée puis bien coiffée.
J'aimerais
vous dire. Bien mis, c'est ça. Ça venait avec un énorme investissement en temps et en argent.
En coiffure,
oui, pratiquement, oui. J'allais très, très souvent chez le coiffeur.
Comme Hélène Fotopoulos qui allait quasiment toutes les semaines.
Mais ça se traduit la réalité des femmes en politique. L'image compte. Et tellement, en fait, puis un jour j'ai dit, ma foi, j'ai l'impression que le message, l'image compte pour 80% et le message compte pour 20%. Et c'est extrêmement frustrant pour les femmes de faire la politique, sachant que on est toutes, les regards sont toujours pointés sur la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu es coiffée. Puis Catherine Dorion s'est révoltée contre ça. Manon Massé, est-ce qu'on parle de la façon dont Manon Massé s'habille aujourd'hui? Absolument pas. Mais Manon Massé, c'est l'opposé de France-Hélène Durand. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand tu es une femme et t'aimes les belles choses, est-ce qu'on peut assumer ça aussi plutôt que d'être constamment jugée? Il y a des femmes qui aiment les belles choses, il y a des beaux vêtements, comme il y a des hommes qui aiment les belles choses, comme les beaux vêtements. Ouais. Alors, moi, je l'ai vécu.
J'ai une anecdote de vêtements à te raconter, Nathalie, Paul, sur des députés. C'est Amir Kadir. Amir Kadir s'en vient à un événement d'inauguration d'un festival pour dans le cadre des sapins, de la vente des sapins de Noël. Je pense qu'il fait moins 45. Il arrive avec un petit coupe-vent. Là, je dis, Amir, on est là pendant 2 heures. Tu vas geler. Il dit, non, Luc, je viens de l'acheter. Ça, c'est un vêtement technique. Puis, ah, genre, ouais, au bout de 15 minutes, t'es bleu. Il a fallu qu'il rentre dans se réchauffer dans la boucherie en face. Il
était totalement inapproprié.
Ça va être cher, mais c'est pas chaud.
C'est ça.
Merci, on vous retrouve demain.
C'est 23.